problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Scuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, l'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News, vous connaissez le refrain, l'after, la seule émission de Radio de France en direct 7 jours sur 7 et même pendant les fêtes de Noël. Oui, pour la première fois dans l'histoire de l'after, il n'y aura pas de vacances, même si les deux hommes qui m'accompagnent ce soir seront en vacances.
Bien évidemment,
titulaire, tu as le droit d'être en vacances, ah pas toi. Ah pas Jonathan McCarty,
Stakhanovic.
Il doit encore faire ses preuves en fait visiblement.
C'est celui qui a le mieux travaillé qui sera en vacances.
C'était ça, Stakhanovic mon pote.
Casting du soir, bonsoir Jonathan McCarty.
Salut les gars.
Bonsoir Ludovic Obraniak.
Salut à tous.
Pour ta dernière de l'année, avant demain, évidemment.
C'est ça.
Évidemment. L'after de l'élégance.
Ouais. Alors là, oui, c'est vrai que là.
Là ce soir,
là,
les gars.
Il a sorti le grand jeu. Il a sorti
on a les bretelles là, le style Peaky Blinder, si vous connaissez la série Jonathan McCarty. Le petit, la petite veste chemise rayée ch'ti de Ludovic Obraniak.
Pourquoi ch'ti?
Je sais pas.
Ouais, ça c'est un peu, tu sais, c'est le mec haineux, c'est dans le groupe, qui veut te faire un compliment.
Ah non,
mais
non,
pour
mais
te casser un petit peu derrière.
Non, mais ma famille ch'ti, c'est pas du tout péjoratif.
Ouais. D'ailleurs, dans notre WhatsApp after, t'as mis un truc sur les ch'tis, faudra qu'on en reparle tout à l'heure.
Ok, plus tard. Ce soir, deux heures d'after, pas débrief de match, puisque les 10 matchs de Ligue 1 seront demain pour un multiplex exceptionnel à vivre aussi sur RMC avec Ludovic Obraniak. Ce soir, au programme, Deschamps est-il si conservateur, toujours figé dans le même système, même idée de jeu,
hein.
Et il a répondu à cette question de Jérôme Roten tout à l'heure. Il s'est bien défendu, on l'écoutera. Jérôme Roten.
Qui ça?
Jérôme Roten.
Et qui?
Monaco et Jardim, bientôt la fin ou pas? Notre correspondant.
Yes.
Côte d'Azur, Jordan Olivier sera avec nous avec ses infos, bien sûr. Une petite page Mercato également. Mercato PSG, Mercato Lyon, Mercato Monaco. L'Angleterre, Julien Laurent sera avec nous ce soir dans l'after. Qu'attendre du nouveau coach d'Arsenal, Mikel Arteta?
Il sera avec nous en duplex une soirée, comme d'habitude, c'est ça?
Sûrement sur le trottoir du restaurant, voilà, où il mange avec ça, madame.
Avec madame, c'est ce qui nous fait croire.
Ouais. Et un petit quiz de Noël, bien sûr, préparé par Arthur Robert aux petits oignons. La question ce soir, est-ce que Ludovic Obraniak va enfin répondre à une question dans un quiz de la
sans tricher?
Si je triche pas, je suis mort.
Et puis messieurs, c'est Noël bientôt. Dans quoi? Dans 5 jours, Noël. C'est déjà Noël, c'est rien, c'est depuis le début du mois. Hein, parce qu'on fait gagner chaque jour un cadeau dans nos émissions. Pour fêter ça, on vous offre le plus beau des cadeaux. iPhone, PS4, iPad, une télévision LED. Pour remporter vos cadeaux, c'est extrêmement simple. Hein, vous connaissez le principe. Envoyez maintenant Noël, N-O-E-L, au 732-16. Noël au 732-16.
On va tirer les boules après.
On a une boîte. Une boîte. Et dans la boîte se trouve le cadeau. De l'after.
Il n'y a plus les boules là comme avant là.
Il n'y a plus les boules. On fait plus simple, hein. Moins de plastique si tu veux. Voilà.
Mais bien tirer les boules.
On pense à la planète. Voilà donc, en fin d'émission, on vous révélera quel est le cadeau. Appelez-nous. En tout cas, envoyez Noël au 732-16, on vous rappellera. Messieurs, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application Direct Studio. Réagissez bien sûr vos questions à Ludo et Jonathan. Grosse soirée, 2 heures d'after. On va commencer par Deschamps, invité exceptionnel de Jérôme Roten dans l'émission Roten Régal. 2 heures d'émission.
C'est quoi ça?
Au cours de laquelle, au cours desquelles, son style de jeu a été abordé. On va pas se mentir, style de jeu parfois critiqué. Dans l'after.
Papa est venu rendre visite à son fils.
C'est un peu ça aussi. Plutôt son fils qui est venu rendre visite à Deschamps. C'est passé à Monaco. 2 heures d'entretien.
Je dirais plutôt que les chaussures sont venues rendre visite au cirage.
Eh bien, figure-toi que non, justement. Jérôme a posé des vraies questions au sélectionneur de l'équipe de France, notamment son style de jeu. Très critiqué dans l'after. Prudence, pragmatisme, efficacité au détriment du beau jeu, le style des champs. Écoutez la question de Jérôme, qui est convaincu qu'on ne peut pas gagner l'Euro comme on a gagné le Mondial, dans ce même style de jeu. Ludo, je crois que tu partages plus ou moins la même idée.
C'est sûr.
Écoutez la réponse du sélectionneur Didier Deschamps.
C'est pas parce qu'on a été champion du monde comme ça que
toutes les équipes vont être champions du monde comme ça, ou que nous, on est capable. C'est s'appuyer sur ce qui a fait notre force. Notre force, c'est quoi? C'est une force collective, et d'avoir eu une très grande efficacité sur le plan défensif et sur le plan offensif. Et on prend la phase de qualification où on a pu, c'est factuel, sur le, notamment la maîtrise et la possession de balles, qui était sur certains matchs très réduite, trop réduite. C'est plus le cas sur cette phase de qualification. C'était pas les mêmes adversaires, oui, c'était pas les mêmes valeurs. Oui, mais ça n'empêche pas que les problèmes qu'on pouvait avoir aujourd'hui, on est juste à un petit pourcent derrière l'Espagne, qui est quand même une référence.
En termes de possession.
Possession, on est à 72%. Mais après, la possession pour la possession, moi, tu le sais, ça m'intéresse pas. Mais où on s'est amélioré aussi, c'est notamment la difficulté qu'on pouvait avoir face à des équipes avec un bloc bas et grosse densité.
Voilà, donc la réponse de Deschamps aux critiques, à la question pour le coup franche de Jérôme Roten, convaincu qu'on ne peut pas gagner l'Euro comme on a gagné le Mondial.
Content qu'il ait eu le courage de la poser au moins.
Il l'a posé. Ouais, il fallait la poser. Attends,
on lui a écrit, il l'a posé.
Non. Il a déjà dit dans l'after, Jérôme, effectivement, sur le style de jeu des Deschamps. Bon, il ne varie pas en clair. Ce qui l'intéresse, encore une fois, il leur dit, son credo, c'est l'efficacité.
Efficacité.
Il s'appuie sur des chiffres. Hein, 2 buts de moyenne par match. Pour lui, c'est important et c'est énorme. Et également la possession de balle.
Efficacité dans les deux surfaces. Il le dit, un soupçon de chance aussi. Moi, je suis persuadé qu'aujourd'hui, dans le football moderne, le milieu de terrain a une place prépondérante dans la construction de ton jeu.
Et, plus qu'avant encore, tu penses?
Oui, plus qu'avant encore. Et c'est ce qui t'amène justement à dominer, à imposer ta loi face à ton adversaire et justement à le dominer et avoir plus de chances, plus de probabilités de gagner les matchs. Regarde le Barça. Le Barça avait un milieu de terrain à toute épreuve. Ils gagnaient les matchs, ils gagnaient les compétitions, ils étaient injouables. Regarde, depuis que Xavi et Iniesta sont partis, le Barça n'est plus le grand Barça. Si ce n'est avec Messi, quand il prend les choses en main et qu'il a décidé que c'était son quart d'heure. Et à ce moment-là, les choses basculent. Mais tu vois qu'aujourd'hui, l'importance du milieu de terrain, et regarde le Real de Madrid aussi, qui balbutie un peu son football en début de saison. Je parle de ça parce qu'on a vu le Classico il n'y a pas si longtemps. Donc le Real de Madrid, Zizou qui a eu du mal à trouver son milieu, c'était difficile. Maintenant qu'il a trouvé son milieu, t'as vu, ça va quand même beaucoup beaucoup mieux. Moi, je pense que le milieu de terrain, c'est.
Et tu veux dire quoi par rapport à ce que précise Deschamps?
Ça veut dire, ok, je comprends très bien ce qu'il veut nous dire. Il a une très bonne défense. Il a la possibilité d'avoir une équipe qui peut jouer et en attaque placée et en attaque rapide. Maintenant, je crois que l'équipe de France a surpris son monde sur la Coupe du Monde et que les équipes seront bien mieux préparées et bien plus armées à l'Euro et qu'il sera difficile de les surprendre.
Tout ça trop binaire comme système et tu peux pas reproduire ça.
En tout cas, ça sera
trop évident.
En tout cas, ça sera plus difficile. D'autant plus si t'as pas un créateur dans le milieu de terrain. Ce qu'on n'est pas habitué à voir sur les derniers matchs. Donc si Pogba ne revient pas à un niveau, à un grand niveau, mais l'équipe de France, comme elle a fini la Coupe du Monde avec des joueurs en forme, ça se discute. Ça peut aller dernier carré. Maintenant, si demain Pogba est pas dans une grande forme, si Griezmann continue à être mi figue mi raisin au Barça. Je peux te dire que ça sera.
Dans la question du débat, c'est voilà, sommes-nous trop injustes avec Deschamps qui finalement gagne ses matchs? Appelez-nous au 32-16, hein. Critique ou soutien du style Deschamps.
Ok.
Franchement, il a raison. L'équipe de France a progressé quand elle affronte des équipes avec des blocs bas. On a vu qu'elle était capable de moins être stéréotypée, d'un petit peu varier et d'un peu plus les surprendre.
On l'a vu deux fois, Joe, en milieu d'éliminatoire.
Exactement.
Et c'est tout.
Après, c'est vrai, il y a des matchs, une campagne d'éliminatoire, c'est long. T'as tes joueurs qui sont en club, qui ont d'autres choses à penser, parfois. T'as eu beaucoup de blessés. Pogba qui a été indisponible pendant un long moment, même Kanté qui était quand même monsieur en métal et qu'on n'a pas eu forcément à tous les matchs. Les latéraux, Hernandez, qui était une des vraies trouvailles, une des vraies réussites, un des vrais fondamentaux pendant la Coupe du Monde du système de l'équipe de France, que ce soit surtout dans les phases de transition, qui a manqué à cette équipe de France-là. Moi, je pense qu'on est un petit peu injuste parce que cette équipe, elle a eu beaucoup de blessés. Elle a des joueurs qui sont dans des grands clubs et surtout juste, voilà, je pense que la vraie force de cette équipe de France-là, et je sais que ça, c'est pas forcément quelque chose qui va nous plaire, mais c'est un fait. La force de cette équipe de France-là, c'est d'être un groupe qui est capable de se mobiliser pour une mission sur une courte période de temps donné. C'est comme ça qu'on a gagné la Coupe du Monde. Et là, les joueurs, que ce soit Griezmann qui a la tête un petit peu au Barça parce que ça se passe mal, que ce soit Mbappé parce qu'il change un petit peu de statut et puis il est un petit peu dispersé avec le Paris Saint-Germain. Bref, je pourrais citer tous les joueurs de l'équipe de France. Je pense que tous les joueurs ont du feu, du pain sur la planche dans leur club, et que quand ça sera le moment de se remettre un petit peu dedans avant d'entamer la compétition, qui est une compétition d'un mois et demi, deux mois, qui sera l'Euro, ce sera une musique.
Joe, tu n'as plus l'effet de surprise Mbappé. Et ça va être un gros problème sur les attaques rapides. C'est-à-dire que les équipes vont quand même verrouiller principalement
la profondeur
sur son côté-là, ouais, sur le côté où il jouera. Moi, je te dis que ça va être bien plus compliqué.
Alors, ça, t'as raison.
Ce que tu dis, parce que justement, Deschamps, on va l'écouter dans un instant sur le positionnement d'Mbappé en équipe de France, qui pourrait peut-être évoluer. En tout cas, Mbappé a un souhait, qui est le même qu'au PSG, c'est jouer dans l'axe. On écoutera Deschamps dans un instant. Tiens, pause rapidement avant la cuillère, Emmanuel, le 32-16, qui vient de nous appeler pour évoquer le style Deschamps. Lui veut nous parler des attaquants de l'équipe de France. Le basket, l'Euroleague, l'ASVEL qui reçoit l'Alba Berlin, Jérémy Desoblin. Bonsoir.
Bonsoir, Nico. Bonsoir. Mais oui, je t'en prie, Nico. Ouais. Pas de souci. Bonsoir, Ludo. Bonsoir, Jonathan.
Salut.
L'ASVEL qui déroule. Désormais, ça a mis du temps à se décanter. Deux cartons et demi à peu près pour que l'ASVEL prenne la mesure de cette rencontre et de son adversaire du soir. L'ASVEL qui mène de 19 points. Désormais, c'est le plus gros écart dans cette rencontre. 73-54. Il reste un petit peu moins de 8 minutes à jouer. L'ASVEL qui se dirige donc vers sa 7e victoire de la saison dans cette compétition.
Jonathan, sommes-nous trop injustes avec Deschamps? Injuste simplement avec Deschamps?
Pour compléter mon propos tout à l'heure, donc oui, je pense qu'on est un petit peu injuste avec Deschamps, et surtout je pense qu'on est pas assez juste avec la perception qu'on peut avoir des autres équipes, et je pense qu'on surévalue grandement la compétition et le niveau des autres équipes qui vont participer à l'Euro.
On regarde les qualifications, on voit l'efficacité des équipes,
ouais,
du 4-0,
d'accord,
du 5-0, mais l'Italie, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique l'a montré.
On surévalue les nations dont on a pris l'habitude de dire qu'elles étaient des grandes nations. L'Allemagne est en reconstruction, l'Espagne pareil.
Voilà.
Par contre, t'as des nations émergentes ou qui reviennent sur le devant
oui,
de la scène,
mais qui sont quand même toujours en train de retard.
Comme l'Angleterre.
Pour moi, l'Angleterre, l'Italie qu'on a encensé, pour moi, c'est toujours très en dessous de l'équipe de France. Après, s'il y a un gros favori avec l'équipe, ici, il y a un gros favori à détacher de cet Euro, il y en a deux.
Il y a la Belgique
et il y a l'équipe de France. C'est les deux vrais favoris de cette compétition-là. Et très franchement, je trouve qu'on est.
Tu dis ça parce qu'elle est championne du monde, uniquement parce qu'elle est championne du monde, ou parce que justement, elle a une assise solide, avec des convictions fortes.
Simple. Par l'expérience d'être champion du monde, par la profondeur du groupe, par la quantité et la qualité qu'il y a dans ce groupe-là. Il y a un réservoir qui est quand même assez extraordinaire, et je pense qu'on s'en rend pas assez compte parce que voilà, on est français, on les voit tout le temps, donc on se rend pas compte que on a, même sur le plan offensif, on a un réservoir de joueurs qui est extraordinaire. Troisième raison qui fait que la France est favorite, c'est simplement parce que je crois vraiment à la capacité qu'a Didier Deschamps et cette équipe-là à se mettre en mode commando. Et ça, on a vu que Deschamps était capable de le faire à Marseille. On a vu qu'il était capable de le faire en équipe de France.
C'est
moi,
pas,
j'y crois.
C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Toi qui es dans le milieu, justement, dans le milieu.
Voilà. Dans quel milieu il est.
C'est pas quand tu pars à la guerre, il faut des soldats en forme.
Ouais.
Voilà. Mais si t'as pas des soldats en forme, ça va être compliqué d'aller conquérir
quoi que ce soit. On est en décembre. On peut tourner en décembre.
Ouais, ok.
Moi, ça m'inquiète pas. Moi, tu sais quoi, je préfère même que Pogba, il ait loupé la première partie de saison.
Jo.
Il va reprendre et il va être frais pour l'Euro.
Il arrivera
pas sur les rotules pour l'Euro.
Jo, je vais t'expliquer un truc. C'est pas une critique que je te fais, et moi, j'ai été dans le.
Ouais.
Voilà, je te dis simplement que le meilleur moyen d'être dans le rythme, c'est d'enchaîner les matchs et la compétition.
Bien sûr.
Un mec qui a pas joué pendant 6 mois. Certes, alors on ne sait même pas s'il va revenir et quand il va revenir. Il peut revenir au mois de mars, comme il peut revenir au mois de février.
Pas en janvier,
on n'entend rien par rapport vis-à-vis de Pogba. On n'a pas énormément d'infos. Je te dis simplement que quand tu as raté 6 mois, attention.
Bah oui.
Attention.
Ludo, là où tu as raison, c'est que ça va lui prendre 1 à 2 mois, plutôt 2 mois, à reprendre le rythme et à redevenir le
Paul Pogba. Dans une équipe en difficulté.
Le sport du haut niveau, c'est. Pour un joueur de foot, le corps d'un joueur de foot, c'est comme une Formule 1.
Oui, oui.
Le moindre truc qui n'est pas réglé, la moindre.
Un grain de sable dans la machine, quoi.
Et je peux te dire que tout déraille.
Mécanique.
Mais moi, je m'inquiète pas parce que la deadline pour moi, c'est il faut qu'en février, tous les joueurs majeurs de cette équipe de France-là aient repris la compétition, ouais, et pour être arrivés pile à point pour l'Euro. Et je mets Olivier Giroud aussi dans le lot. Il faut qu'à partir du mois de février, il commence à jouer quand même.
Emmanuel, au 32-16. Bonsoir Emmanuel et bienvenue dans l'After.
Emmanuel.
Bonsoir Emmanuel. Emmanuel, es-tu là? Avec Jonathan McCarty et Ludovic Obraniak. Rebonsoir Emmanuel.
C'est le retour d'Emmanuel.
Emmanuel est là. Emmanuel 2.
Salut, salut Emmanuel, bienvenue dans l'after. On t'écoute sur, sur Deschamps. Bon voilà, on a intitulé ce, ce débat sommes-nous injustes tout simplement avec le sélectionneur qui, c'est vrai, est critiqué dans l'after parce qu'on dit ce qu'on pense également, même s'il est champion du monde.
Il est critiquable.
Vas-y Emmanuel.
C'est ça. Mais moi, je le trouve pas conservateur. J'aime bien l'équipe de France. J'aime l'avoir joué. Je trouve que Deschamps, il fait un bon travail et je suis d'accord avec le fait qu'il mérite pas toutes les critiques par rapport à la Coupe du Monde sur son jeu. Après, derrière, malgré tout ça, je trouve que niveau attaquant, je pense que là, il est conservateur et c'est possible de le critiquer par rapport à son choix d'attaquant. Je pense que ça fait combien de temps maintenant que Giroud est sélectionné en équipe de France? J'ai rien contre Giroud, mais on peut faire mieux. Pourquoi? Je comprends pas pourquoi Lacazette, il est pas sélectionné. Après les saisons qu'il fait à Arsenal, ça me surprend. Je veux pas revenir sur l'affaire Benzema. Mais il me semble qu'il a été blanchi. Je comprends toujours pas le malaise. Moi, j'ai du mal à comprendre. Je suis pas un expert, mais je comprends pas pourquoi on sélectionne pas Benzema. Ou alors.
On va pas revenir là-dessus.
Oui, on a fait le débat.
Emmanuel.
Oui.
Vas-y, avance.
On va pas revenir là-dessus. On l'a fait mille fois le débat, mais il y a des raisons qui tiennent plus de l'ordre personnel, de relations interpersonnelles entre Didier Deschamps et Karim Benzema. Et des maladresses des deux côtés et qui fait que il n'est plus là.
Vas-y, Emmanuel.
Oui, et du coup, et Lacazette, pourquoi est-ce qu'on l'a jamais vu jouer en équipe de France malgré ses prestations avec Arsenal?
Alors, visiblement, il y a aussi un problème relationnel entre Deschamps et Lacazette. C'est pas toujours très bien passé lors des rassemblements en équipe de France entre Deschamps et Alexandre Lacazette. Lacazette, qui soit dit en passant, n'est pas dans la forme de sa vie non plus. Attention.
Non, en ce moment,
Une chose est sûre, est-ce qu'on est injuste ou pas injuste? Didier Deschamps a monté la barre très haut.
Très haut, c'est bien.
Très haut. Il est vice-champion d'Europe et il est champion du monde. On est en droit d'attente, d'un entraîneur qui est champion du monde, un haut niveau de performance.
Mais il est efficace.
Il est efficace. Moi, ce que j'ai vu dans les éliminatoires ne tend pas à me rassurer.
Là, ça, il a raison, Ludo, là-dessus.
Pour la
oui, mais ce qu'on voyait avant le mondial en Russie 2018, t'en es pas à rassurer non plus.
Bah,
non.
Exactement.
Mais c'est ce qu'on nous dit sur le Direct Studio, quoi.
Non, mais ce qui est important
encore
de dire.
Fois, ce qui m'inquiète, c'est que cette équipe de France, elle est bien sûr performante. Bien sûr qu'il y a des grands joueurs. Hein, mais. On l'a dit, ce qui nous inquiète, c'est que ceux qui ont fait qu'on a pu être champion du monde, les joueurs qui ont pris une dimension pendant cette Coupe du Monde, je pense à Lucas Hernandez, je pense à Paul Pogba, je pense à Antoine Griezmann.
Titi, qui joue plus.
Ouais, je pense que l'anglais est capable de le remplacer. Mais si ces quatre joueurs-là ne sont pas dans leur à 100% permettez-moi d'avoir des doutes par rapport au début de saison. Et encore une fois, je te l'ai dit, un joueur a besoin d'engranger des matchs, a besoin d'avoir de la compétition, engranger du physique. Pourquoi vous croyez qu'on fait des pré-saisons de un mois? Non mais Joe, pourquoi tu crois qu'on fait des pré-saisons de un mois avant d'attaquer la compétition?
Pour
capitaliser.
Par rapport à ce que tu dis, Ludo, je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord parce que je pense que le logiciel, le paradigme a un petit peu changé par rapport aux équipes nationales. Je pense que il y a beaucoup d'équipes qui ont été les championnes des éliminatoires et qui arrivaient à se faire prendre le tapis, à être ridicules lorsque la vraie compétition commençait. Je pense que le football de club a pris une telle importance, la Ligue des Champions, les championnats domestiques, ça a pris une telle importance que c'est difficile pour les joueurs internationaux d'arriver à être concentrés à 10 000% lorsqu'ils arrivent avec leur équipe nationale. Alors, il y a des exceptions. Et je pense que des exceptions, si on veut vraiment détailler, ça serait plus pour des petits pays ou des pays qui ont un fort nationalisme exacerbé entre
eux. Je te parle pas de concentration. Je te parle de forme physique.
Je te parle pas juste de concentration. Je te parle juste du fait d'arriver, de dire, le calendrier étant ce qu'il est. C'est entre deux matchs de Ligue des Champions, c'est entre un classico, tous nos joueurs en équipe de France jouent dans des grands clubs qui ont des échéances et des impératifs qui sont très élevés. Et je pense que quand t'arrives en plein milieu d'une phase de poule de Ligue des Champions, que tu dois aller, je sais pas, en Moldavie ou en Roumanie ou je ne sais où pour disputer un match de phase de qualification pour une compétition, je peux comprendre que les joueurs soient moins performants. Et ça, je pense que c'est le revers de la médaille d'avoir des joueurs qui ne jouent dans des grands clubs.
C'est jamais l'idéal. Imagine un mec comme Pogba qui revient, il revient au mois de février. Manchester, qu'est-ce qu'ils vont faire? Manchester, Paul Pogba a peut-être l'un des plus gros contrats du club. Tu penses qu'ils vont pas essayer de rentabiliser Paul Pogba sur le peu de temps qu'ils vont l'avoir? Ils en ont rien à cirer, Manchester United, de l'Euro avec l'équipe de France.
Ils veulent le faire jouer pour mieux le vendre aussi, parce qu'il veut partir.
Si lui a pas fait une grosse préparation ou il va quasiment la faire seul, il va enchaîner les matchs. À un moment donné, il y aura un coup de pompe. il faut espérer pour l'équipe de France que ce coup de pompe, il soit pas au moment de l'Euro.
Merci Emmanuel d'avoir appelé Emmanuel. Tu reviens quand tu veux dans l'after. Je précise que quand tu as Olivier Giroud, Deschamps en a parlé à Jérôme Roten dans Roten Régal. Il a précisé, grosso modo, pour Giroud, c'est plus possible. Il faut qu'il joue.
Eh oui.
Voilà. Mais il dit également, mais il va jouer.
Il va jouer, je pense qu'il il va partir.
Il a parlé. Deschamps le sait. Voilà.
Il lui a parlé. Donc, Giroud, il faut qu'il parte.
Mois de janvier, voilà. Il change de club, il va jouer. Jouera.
Après, attention.
10
hein.
matchs, ça suffira amplement pour qu'il ait sa place à l'Euro 2020.
Attention.
De France.
Attention où il va aller.
Ce qui est. Enfin, c'est, ouais. C'est un choix très dur pour Olivier Giroud.
Où il va. Hein. C'est, tant qu'il joue Deschamps, a une telle confiance en lui que.
C'est très dur pour Olivier Giroud.
Si Inter, il jouera pas, par contre.
Tu vois, par exemple. Tu sors d'un club comme Chelsea où tu essayes de trouver un point de chute, t'es en fin de contrat. Il faut absolument que tu joues l'Euro. C'est-à-dire que tu peux pas te dire je mets quand même entre parenthèses. La suite de ma carrière et mon choix de club pour juste jouer l'Euro, tu vois, c'est-à-dire c'est très compliqué à mon avis pour lui de se positionner parce que forcément en ayant joué à Chelsea, il va retrouver plus ou moins un club. On parlait de l'Inter, intéressant.
Il jouera pas, il va pouvoir, hein, je t'annonce.
Ouais, mais lui pour la suite de sa carrière, c'est-à-dire que t'es en fin de contrat, ça veut dire que tu vas signer ton prochain contrat, tu vas signer
c'est le dernier,
tu vas signer 3 ans. Tu préfères signer 3 ans à l'Inter ou 3 ans à Marseille ou à Lyon?
Bah, il faut jouer à
Marseille ou à Lyon en prêt et après.
Ben bah non, le prêt c'est pas possible. Il est en fin de contrat. C'est impossible. Et en fait, il faudra souligner une chose. S'il part et qu'il se fait transférer là à 6 mois de la fin de son contrat pour jouer l'Euro, il faudra saluer la dévotion qu'a Olivier Giroud envers l'équipe de France. Parce que je rappelle juste qu'un joueur qui va au bout de son contrat, lorsqu'il signe dans son nouveau club, il est libre, certes, mais aussi il prend une prime à la signature qui est nettement plus importante que s'il arrive lorsqu'il est transféré. Donc, il faudra saluer son amour en équipe de France.
Kev Viking nous dit sur le direct studio, Deschamps n'est pas bête, il sait très bien les problèmes des Bleus et du jeu produit. Je suis sûr qu'il réfléchit pour la faire mieux jouer. Il faut lui laisser sa chance. Après tout, il nous a emmené en finale de l'Euro et nous a fait gagner la Coupe du Monde.
Et on n'en espère pas moins.
On en revient.
En plus, les gars, il y a un truc qu'il faut dire. Enfin, on n'insiste pas assez dessus, quoi. Parce que souvent, on se palue. Enfin, non, j'allais dire. Oups. Excusez-moi. On se sexe. On est élégance. On est là, on regarde avec les yeux de l'amour.
Pas van devant.
Non, on regarde avec les yeux d'amour les effectifs de la Hollande, de l'Angleterre, de l'Espagne, de l'Allemagne. Et le meilleur réservoir, c'est la France qu'il a.
Sauf qu'on est trop critique, on ne sait pas apprécier le matériel. Entre
bien sûr, c'est comme avec ta femme. Hein. Avec ta femme, tu la vois tous les jours, tu oublies qu'elle est cool au bout d'un moment. Tu vois.
Qu'elle est belle.
Et qu'elle est belle et qu'elle est cool, qu'elle fait bien manger. Tu oublies tout ça quand tu la vois tous les jours.
Bien manger, tu fais manger toi aussi.
Bah, bien sûr, je fais bien manger moi aussi.
Bah, voilà.
Mais c'est là, pour les femmes, c'est pareil. Elles oublient qu'on est gentil, qu'on est beau, qu'on fait bien manger aussi.
Voilà, merci.
Parité si tu veux. Mais comme on les voit et
côté des nôtres,
on a tendance. Les gars, on a une attaque, on a Griezmann, Mbappé quand même.
Tu rigoles, pourquoi tu me cites pas? Moi, ça fait 13 ans que je suis avec ma femme. Je la vois toujours aussi belle.
C'est vrai.
C'est vrai, il a raison. C'est la meilleure réponse possible.
La semaine dernière, il m'a dit.
Le dicton, attends, c'est je t'aime plus qu'hier et moins que demain. Tu connais ça?
Là, t'exagères un peu.
Allez, tiens, le basket. L'ASVEL avec Jérémy Donzé. L'ASVEL qui se dirige vers une nouvelle victoire en Euroleague.
Oui, même s'il y a eu un petit trou d'air, Nico, dans ce quatrième et dernier quart-temps. L'ASVEL qui a encaissé 11 points face à Berlin, mais 11 points d'avance toujours pour les Villeurbanais. Ça fait 14 désormais. Le shoot à 3 points de Charles Cahudi, le capitaine là-bas dans l'angle. 84-70. Il reste 2 minutes 40. Et comme tu le disais, Nico, l'ASVEL se dirige donc vers une nouvelle victoire en Euroleague. Ce serait la 7e, la 6e ici à l'Astrobal cette saison. Il y a eu des cadors qui sont tombés, l'Olympiakos, le Panathinaikos, le CSKA Moscou, l'Alba Berlin. C'est un peu moins réputé, une équipe allemande accrocheuse quand même ce soir. Il a fallu 2 cartons et demi pour que la situation se décante enfin pour les hommes de Zvezda Mitrovic qui ont retrouvé toute leur adresse dans les 2 derniers cartons. Ça tombe bien, l'ASVEL va donc s'imposer certainement ici à l'Astrobal. 84-70, 14 points d'avance à 2 minutes 37 la fin de cette rencontre.
Merci Jérémy, à tout à l'heure pour la fin de ce match. Hein. Nouvelle victoire ce mois à venir de l'ASVEL face à l'Alba. Berlin, on poursuit le débat sur Deschamps. Sommes-nous injustes avec le sélectionneur? On va parler d'Mbappé dans un instant, bien sûr. Son positionnement, Deschamps en a parlé. Il sait ce que veut Mbappé en équipe de France. Va-t-il accéder à ses envies, à ses désirs? Quels sont, à sa requête, quels sont vos désirs concernant Mbappé en équipe de France? Si c'était lui finalement qui prenait la place de Giroud. Eh, pourquoi pas? On en parle dans un instant, bien sûr, et de Monaco également. Faut-il se séparer au plus vite de Leonardo Jardim à Monaco? Selon Nice ce matin, oui, quoi qu'il arrive, il partira. Quoi qu'il arrive après le match face à Lille demain soir. Et puis également, Toulouse, la crise.
Jardim va partir sûr?
Selon Nice ce matin, on va appeler notre correspondant dans un instant, Jardim Olivier. Et puis, je sais pas, les gars, on va parler de ça parce que c'est improbable à Toulouse, comme si rien n'allait déjà. Un joueur, pendant le match de Coupe de la Ligue, a regardé son téléphone portable sur le banc de touche.
Real Madrid Barça. Voilà.
Bah, au moins, il a vu du foot.
Quand rien ne va, non, non pas, c'est pas fantastique.
Ça en dit long, surtout sur aussi l'implication des joueurs.
On en parle dans un instant. L'after revient avec Jonathan McCarty et Ludovic Obraniak.
RMC. L'after foot. Nicolas Jamain.
L'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit, bien sûr, radio, ouais. À la radio sur RMC, la télé sur RMC Sport News. Vous êtes de plus en plus à nous regarder, à apprécier le style Jonathan McCarty, à apprécier le flame, la sagesse de Ludovic Obraniak.
La sagesse.
T'es pas... un sage maintenant, t'es un vieux sage.
Je suis pas certain. Hein.
36 ans, regard distancié sur le foot.
J'ai une sagesse.
Le recul de la retraite.
J'ai une sagesse, mais Jonathan me tire vers le bas.
C'est comment le problème, toi?
Oh là là!
Attends, parce que, ah, les gars, à parté, parce que en ces temps de réforme des retraites annoncées, de grève, de manifestation,
ouais.
Tu touches une cotisation retraite ou pas en tant que footballeur professionnel?
Ah,
comment
non,
ça marche?
Bah non, t'es fou, toi.
Vous avez pas droit à ça, vous?
Bah non. T'as le droit à rien.
Tu sais que les danseurs de Paris, à 40 ans, parce que leur corps est usé, ils peuvent plus danser, ils ont une retraite pleine à 40 ans.
Non, honnêtement, je me pose même pas la question et je pense que je la verrai pas ma retraite. Donc
non, j'aime trop travailler.
Non, je vais me la créer moi-même ma retraite, t'inquiète pas.
mais c'est la solution, hein.
Voilà.
Tu comptes sur la retraite, t'es mal barré, hein.
Allez les gars, c'était une aparté, hein, le régime des retraites des footballeurs, ça dont on parlait assez peu finalement. On avait fait un beau reportage sur RMC Sport News récemment.
Bon, tu fais ta promo là, je fais la promo des reportages que tu fais.
Non, c'est un sujet intéressant d'évoquer ça, parce qu'il y a des régimes spéciaux pour certains sportifs et pour d'autres non. Les footballeurs pourraient peut-être réclamer, je parle pas des très gros salaires, un footballeur de Ligue 2 nationale qui à 35 ans est cassé, eh bien, doit travailler. D'autres sportifs n'ont pas à le faire parce qu'ils touchent une retraite.
Le problème c'est que c'est dans l'industrie du spectacle. Même si c'est le sport.
Mais c'est une question de limite physique.
C'est l'industrie du spectacle. C'est
Deschamps, Didier Deschamps, sommes-nous injustes avec Deschamps? Je vous rappelle qu'il était l'invité, bien sûr, de Jérôme Roten cet après-midi. Je vous rappelle qu'également dans un instant, on parlera de Monaco et de Léo Jardim. Appelez-nous, supporters monégasques au 32-16. Pour vous, est-ce déjà terminé? Faut-il dire merci et au revoir à Léo Jardim à Monaco? Et également Toulouse avec la crise. On s'enfonce dans la crise à Toulouse avec un joueur, voire deux, qui vont être sanctionnés très lourdement financièrement. Pour avoir regardé leur téléphone portable pendant un match avec le TFC en Coupe de la Ligue face à Lyon. On en parle dans un instant, Ludo est atterré évidemment. Et également, je vous rappelle le quiz de l'after en fin d'émission. Et l'Angleterre avec Mikel Arteta, nouveau coach Arsenal.
Comment tu peux faire ça?
Ben, on en parlera tout à l'heure.
La situation où est le club, comment tu peux faire ça?
C'est fou. Deschamps, on va l'écouter tout de suite sur son système de jeu, vous le savez. Ludo, on avait vécu la soirée ensemble, je crois, contre l'Albanie. Il met un 3-5-2 qu'il tente. Il casse son 4-4-2 traditionnel également.
C'était les deux derniers matchs, hein.
Voilà, exactement, ouais, deux derniers matchs même. La question lui a été posée 4-2-3-1, t'as raison. Elle a été posée par Jérôme et Jean-Louis Tour tout à l'heure. Peut-il changer de système et quel système il défend? Écoutez sa réponse.
Tu dis oui, mais pour marquer des buts, il faut mettre plus d'attaquants. Mais ça n'a rien à voir, c'est une question d'animation. Aujourd'hui, on est sur un 4-4-2 qui est notre système préférentiel, même si ça m'a pas empêché dernièrement de passer à un autre système, parce que j'y pense depuis un moment, et c'est pas un choix défensif de ma part.
C'est la défense à trois.
Oui, et ça permet d'avoir beaucoup d'avantages sur le plan offensif aussi. Dans un 4-4-2, tout dépend quel joueur tu mets, les deux attaquants que tu mets,
quel joueur tu mets sur les côtés.
Oui.
Parce que quand tu mets Blaise sur le côté gauche, forcément, tu vas pas lui demander la même chose qu'un Coman, qu'un Mbappé ou qu'un
Lemar. Il va mener certaines choses aussi importantes, même si...
Dans ton équilibre.
Oui, mais c'est pas l'empêcher. Tu regardes Blaise durant la Coupe du Monde, dans les avant-dernières passes, les dernières passes, il y était souvent. Le mot qui revient pour les entraîneurs et les sélectionneurs, c'est l'équilibre, parce que c'est là où le danger, c'est deux secondes à la perte du ballon. Si tu fais pas ce qu'il faut, ben t'es en déséquilibre.
Voilà, Deschamps dans le texte, hein, toujours fidèle à ses principes, équilibre. Il défend la Matuidi dans son milieu de terrain, qui est pas le joueur le plus offensif, même s'il dit, Deschamps, vous l'avez vu, il se projette. Il est à l'avant-dernière passe, à la dernière passe parfois. Vous comprenez ou pas ce...
Moi, je trouve son discours, il est cohérent. De toute manière, après, on n'aime pas le style, mais moi, le truc qui m'importe le plus, c'est quand l'entraîneur donne de la personnalité à son équipe, l'équipe de France en a une, donne une identité de jeu à son équipe, l'équipe de France en a une, et qu'il a un discours cohérent. Là, écoute, on peut pas le prendre à défaut sur ce qu'il nous dit. Après, libre à nous d'apprécier.
Toujours pareil, c'est une question d'approche également.
C'est difficile. C'est difficile de le prendre en défaut, hein, quand tu l'entends.
Bah, je sais pas.
Je suis content déjà qu'il y a une réflexion. C'est-à-dire que ce qui veut dire que Didier Deschamps a analysé les matchs et à éventuellement penser à une solution de rechange, ce système à 3. Après, moi, pour ce système à 3, ma vision que j'ai du 3-5-2 ou de, comme vous,
4-2-3-1,
ouais, voilà, comme vous voulez, c'est-à-dire que t'as trois défenseurs centraux qui doivent couvrir la largeur. Après, tes latéraux doivent être tout le temps très haut, que ça soit dans le pressing ou que ça soit dans l'animation offensive. Alors, faut pas qu'ils soient trop haut non plus au départ. Il faut qu'ils arrivent. Ce sont des joueurs qui doivent arriver lancés à chaque fois et avec une très belle qualité de centre. Non, si tu me dis que Blaise Matuidi a une très belle qualité de centre. Bon,
non,
je préfère Lemar quand même. Mais Lemar, il n'est pas capable de faire le piston. Donc, si tu veux, ou du moins de jouer dans ce système-là. Ok, pourquoi pas. Ça peut être une réflexion, une idée. Mais
moi, j'aimerais bien le voir avec Benjamin Mendy ou Fernand Mendy et Léo Dubois.
Pourquoi pas. Mais je en l'état, avec Lucadigne et
Pavard. Ah, bah là, non, c'est sûr.
Pavard,
Lucadigne fait quand même une belle
oui,
saison.
Oui, ça va.
Lucadigne, ça va. Pavard, mais c'est non. C'est
avec Pavard, je pense qu'on manque de qualité dans le centre. Et dans la possibilité d'apporter un vrai apport offensif.
Mais avec n'importe lesquels de nos latéraux, mis à part Lucas Hernandez, que ce soit Benjamin, Ferland Mendy, Lévin Kurzawa même, Lucas Digne, et n'importe quel autre latéral, mis à part Pavard à droite, que ce soit Léo Dubois ou le peu d'autres latéraux qu'on a, je pense qu'il serait meilleur justement comme ça, dans une défense à trois.
Et du coup. C'est aussi une complicité parce que l'articulation du système à 5 derrière, qui se transforme en 3-4-3 ou un peu comme tu veux, c'est que quand ton latéral est très haut, t'as ton défenseur central
qui doit venir coulisser.
Ce qui n'est pas tout le temps fait, notamment tu vois beaucoup d'équipes qui, dès qu'elles sont en difficulté, s'alignent à 5 derrière et il n'y a rien de plus dangereux pour créer des brèches dans ta défense.
Après,
c'est-à-dire, est-ce qu'un mec comme Varane, moi je le préfère vraiment dans l'axe du terrain où il est au duel, dans la couverture, là, que d'aller se déporter sur le côté
droit.
Avec le risque de pouvoir jouer des 1 contre 1, avec aujourd'hui, on le sait, des joueurs qui sur le côté, dans n'importe quelle nation, sont des bombes. Sont
parce des mecs on a qui, en les gars, 1 contre 1. On a qui axe droit à part Varane?
On peut avoir Kurt Zouma. Peut avoir, c'est surtout à gauche qu'on est.
Ouais,
qu'on
est fourni. En fait, le problème de cette défense-là, c'est que ça t'oblige fondamentalement à mettre Varane axe droit de ta défense à 3. Pour moi, la défense la plus évidente, c'est Lucas Hernandez axe gauche, Clément Langlais dans l'axe, c'est un gaucher, et Varane axe droit. Donc oui, c'est peut-être un petit peu contraignant. Mais après, cette défense, elle a quand même de la gueule, cette défense à 3.
Au-delà de la défense, il répond également à ceux qui disent, mais il faut mettre des joueurs offensifs, plus attaquants peut-être. On s'était réjouis d'avoir vu un Ben Yedder intégrer l'équipe de France, des petits modèles plus aériens, plus légers, plus techniques également, avec un toucher de balle plus soyeux que du Giroud.
Enfin, Ben Yedder que s'il est accompagné de quelqu'un.
Oui, bien sûr. Mais non, mais ce que Deschamps ne comprend pas forcément dans les critiques qu'on lui apporte, c'est que personne ne réclame 4 attaquants, réclame des profils peut-être différents également, offensivement. Des choses un peu moins parfois.
Non, c'est pas ça. Il y a deux choses. La première, c'est que je pense qu'Olivier Giroud cristallise beaucoup de critiques et fait un petit peu office de miroir déformant. À travers le cas d'Olivier Giroud, on a tendance un petit peu, ça donne lieu à des exagérations sur le côté conservateur de Deschamps, sur la frilosité de Deschamps. Alors que quand tu regardes les compositions d'équipe, alors c'est vrai que quand il met Sissoko, Matuidi dans les trois
demi-soldats, entre guillemets,
souvent, ça ne sait pas non plus la majorité du temps. Donc, c'est une équipe quand même qui a des joueurs offensifs. Et la deuxième chose, qui fait qu'on a cette impression de frilosité, c'est qu'au final, c'est pas une question de joueur, c'est juste une question d'animation. Il l'a très bien dit. Et Ludo, tu le soulignes très bien. Ben Yedder, c'est très bien. Mais Ben Yedder, voilà, il a besoin de jouer à deux attaquants devant cette équipe. Mais même si Deschamps dit que c'est un 4-4-2, c'est pas un 4-4-2, c'est un 4-2-3-1. Et cette équipe ne joue pas avec deux attaquants. Et Deschamps, c'était à Marseille, c'était le cas aussi. On voulait absolument voir Mamadou Niang vraiment dans l'axe avec Brandao qui lui tournait autour. Alors que non, il mettait Brandao côté gauche. C'est un entraîneur qui n'aime pas forcément jouer à deux devant. Et Ben Yedder, dans ce cas-là, il y a très peu de chances d'exister, quoi.
Alors justement, le cas Mbappé a été évoqué puisqu'on parle de la force de frappe offensive. Mbappé qui a une intention à terme d'être placé dans l'axe, qui est sur un côté au PSG ou en équipe de France également. Écoutez ce que pense Deschamps et ce que c'est Deschamps des volontés, des desiderata de Kylian Mbappé.
Des caprices.
Je préfère être dans l'axe. Ça, je le sais.
Ça se voit de toute façon depuis.
Même en équipe de France, il vous l'a dit.
Non, il le dit pas.
Non, mais ça sent.
Il revendique pas, mais
ça sent de toute façon.
Forcément, il peut jouer partout, mais quand on est sur un côté dans un système en 4-4-2, il y a des efforts.
Non, il peut pas le faire.
Si, non, il peut le faire.
Arrête,
bah, avec ce que,
avec, il a déjà fait, il l'a fait.
Oui, mais bon, excuse-moi, il l'a fait, tu l'as fait, et tu l'as dit tout à l'heure avec Matuidi, qui est plus un milieu défensif
non, mais
côté gauche.
C'est de l'autre côté. Oui. Après, ça compense, mais ça l'a pas empêché de le faire. Mais évidemment, comme tout attaquant qui est tiré par le but, et il vaut mieux être dans l'axe, il y a moins d'efforts parce qu'il est plus près du but.
Il va Deschamps, Jérôme, quand même. Hein.
Ouais, ouais.
Bien. Ce que dit un peu Deschamps, finalement, sans le dire, évidemment, c'est son un de ses meilleurs joueurs, sa pépite. C'est que le problème, d'un côté, c'est que Mbappé a forcément envie de défendre et il lui demande de défendre quand il est sur un côté. Et que Mbappé, il a envie de marquer beaucoup de buts et que c'est mieux dans l'axe parce qu'il est plus proche du but. C'est extrêmement clair. Écoute, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'il dit.
Pour l'instant, Mbappé dans l'axe, moi, je pense que j'y crois pas. Du moins seul dans l'axe, j'y crois pas. On l'a vu très bon dans l'axe à Monaco, mais il était accompagné d'un Lamel Falcao de Gala.
Mais il peut être accompagné d'un Griezmann de Gala,
oui,
et d'un Giroud de Gala.
Oui, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il jouera pas avec d'autres attaquants.
Jonathan.
Moi, pour moi, Mbappé, pour l'instant, quand il a joué, attends, juste quand il a joué dans l'axe au Paris Saint-Germain, je l'ai trouvé médiocre.
Attends, fin de saison dernière, il fait trois, quatre derniers mois de folie.
Mbappé,
Manchester, peut-être.
Mbappé jouera numéro 9.
Oui, un
jour. Ça coincera avec Giroud, même à l'Euro, je te le dis.
Ouais.
Si au bout de 60 minutes, tu vois qu'on est acculé, et qu'on n'arrive pas à ressortir le ballon avec Giroud, je peux te jurer que Mbappé passera en neuf et que sur l'aile il mettra soit Coman, soit peut-être Dembélé, soit peut-être un autre pour apporter de la vitesse. C'est une certitude. C'est-à-dire que c'est le plan B.
Mais tu veux le voir où, toi, dans les médias?
Moi,
dans
je,
l'axe ou sur un côté?
Moi, je le préfère côté gauche. Honnêtement, moi, je le préfère côté gauche. Ouais. D'autant plus que Pavard est peut-être le latéral qui est le plus en difficulté. Avec un mec qui défend pas, ça met encore plus en valeur ses lacunes défensives. Donc ouais. Moi, quitte à le mettre sur le front de l'attaque, je le préfère à gauche quand il rentre à l'intérieur sur son pied droit. Il peut éliminer, il est même capable lui de partir sur son côté gauche. Il est capable de rentrer à l'intérieur, de trouver le relais une deux où y aller tous. Enfin, moi je le préfère.
Dans l'absolu. Même si c'est pas possible en équipe de France, moi je le préférerais dans l'axe, accompagné d'un autre joueur.
C'est un garçon qu'il faut pas. C'est-à-dire que quand t'es à droite, étant droitier, bah t'es un peu cloisonné, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'es limité en termes de champ d'action.
Ouais, tu sais, c'est plus difficile de rentrer sur ton
pied. Bien évidemment. Et il a un pied gauche qui est moins.
Voilà. Pas de là-dessus.
Donc après, moi je le préfère à gauche parce que quand c'est ton joueur majeur.
On l'a vu à gauche en bleu.
Contre-attaque,
mais on l'a pas vu
à relancer.
On l'a jamais vu à gauche.
Oh, il a fait quelques apparitions à gauche.
Moi je l'aime beaucoup.
À gauche.
Ponctuellement, ouais. Pas en débutant forcément, ouais. Mais ponctuellement.
Ouais, écoute, franchement, c'est un joueur majeur de l'équipe de France, il n'y a pas de discussion dessus. Son poste préférentiel, je pense, je vous l'ai dit, c'est dans l'axe avec un autre attaquant, ça n'arrivera pas en bleu. Il va falloir qu'il continue de jouer côté droit pour l'équilibre.
Ça aussi, Deschamps change son système. Voilà, messieurs, voilà pour les déclarations de Didier Deschamps que vous pouvez trouver en intégralité sur le site rmcsport.fr.
Il s'est livré,
c'est intéressant parce que l'interview a bien été préparée et que Jérôme, malgré ce que vous pouvez dire, langue de vipère, a posé des questions à son ami Deschamps.
On a bien taquiné.
Bien sûr.
Et qui, Jérôme?
Dans un instant, Monaco, Jardim, fini ou pas encore. Jardim Olivier, le correspondant, sera avec nous dans un instant. Bien sûr, on évoquera également la crise à Toulouse. Ça devient catastrophique, pathétique pour une équipe qui est battue 8 fois consécutivement et qui se déplace demain à Nice, justement. Et puis également, Mikel Arteta au programme, le quiz de l'after. Et tiens, la victoire de l'ASVEL en Euroleague, 93-81 face à l'Alba Berlin. Bravo aux hommes de Mitrovic et de Tony Parker. L'after est là jusqu'à minuit. Ludo Bragnac, Jonathan Macardy, à tout de suite.
RMC, l'afterfoot, Nicolas Jamain.
Avec Ludovic Bragnac, avec Jonathan Macardy, bien sûr, on est ensemble jusqu'à minuit. C'est l'after comme tous les soirs. Dans un instant, on parlera de Toulouse. Oh, Toulouse, Claude Nougaro.
Ils sont en Ligue 1 toujours?
Ils sont en Ligue 1, alors ne sois pas si désobligeant parce que la saison est encore longue. Il reste encore 20 matchs de Ligue 1.
Ça retournerait dans sa tombe, Nougaro, je t'annonce.
Un Nougaro, là, ouais. La Ville Rose est en difficulté, est en crise. On parlera notamment d'un joueur qui a regardé. Alors, on en parlera dans un instant. A priori, un match de foot lors
tu
du
mets
match.
Le quand tu l'as. Sous couvert de.
On donnera le nom du joueur parce que finalement, on l'a et que c'est.
T'as remarqué, Nicolas, que beaucoup de choses qui sont roses sont en crise en ce moment. Enchaîne.
Ce que tu parles. Monaco d'abord. Faut-il se séparer au plus vite de Leonardo Jardim? Appelez-nous, supporter monégasque au 32-16. Le hashtag RMC Live, bien sûr. Le cas Jardim, qu'on a longuement évoqué, surtout dans le premier tiers de la saison, même si ça allait un peu mieux ces derniers temps.
Et qui avait dit quoi?
T'avais dit quoi, Ludo?
Moi, j'avais dit out depuis un moment, oui. Et Jonathan avait dit, mais non, je vois qu'il y a la patte Jardim.
Non, j'ai dit que ça se mettait un petit peu, que ça, non, ça non, s'améliorait. Non, mais ouais, mais je le maintiens. Je
alors, dès ce matin, ouais. Le quotidien local, très bon journal, a annoncé la fin de l'aventure, de la deuxième aventure, hein. De Léonard de Jardim à Monaco.
Un paquet de pognon, le salopard.
Quoi qu'il arrive après le match demain à Lille, victoire nulle ou défaite pour eux, c'est terminé. C'est vrai qu'il y a eu un pauvre nul à Angers, il y a eu la claque reçue par Lille 3-0 en Coupe de la Ligue en milieu de semaine, qui aurait achevé de convaincre le vice-président Oleg Petrov de s'en séparer. On est avec notre correspondant dans le sud-est, Côte d'Azur, French Riviera, monsieur Jordan Olivier. Bonsoir Jordan.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à toutes et à tous.
Bienvenue dans l'after. Alors, bon, quoi qu'il arrive, Jardim, demain soir, 23h, c'est terminé?
Alors, ce qui est sûr, messieurs, c'est que la pression est effectivement extrêmement forte sur les épaules de Leonardo Jardim avant la rencontre demain face à Lille. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une défaite assez impressionnante, malheureusement pour les Monégasques. 3-0 battu par ces mêmes Lillois en début de semaine. C'était de la Coupe de la Ligue, mais le problème est bien évidemment plus profond que cela. Depuis le début de la saison, Monaco déçoit. Les Monégasques sont 9e au classement. C'est quand même à relativiser puisqu'ils sont à seulement 6 points de la 3e place occupé par les Lillois, avec un match de retard face au Paris Saint-Germain. Alors je vous l'accorde, le match face au Paris Saint-Germain n'est pas gagné, loin de là, mais c'est moyen.
Attends,
en termes
s'ils gagnent, alors là, je te coupe, si Monaco gagne demain, ils sont à 3 points du podium avec un match en moins. Enfin, 3 points du podium, en tout cas de Lille, en tout cas. C'est ça que ça veut dire.
C'est ça. C'est effectivement cela. Donc comptablement, c'est pas catastrophique, mais le problème de l'AS Monaco de ces dernières semaines, de ces derniers mois, c'est clairement le fond de jeu, et c'est ce qui déplaît aux dirigeants de l'AS Monaco, surtout qu'il
Jordan,
y a eu des
Jordan,
importants.
Jordan, oui. Pour un club comme Monaco, regarde la différence de but.
Un. Alors, c'est là, c'est effectivement là que
tu as un monde entre ton activité offensive et défensive.
C'est effectivement là le problème.
C'est que Monaco s'est renforcé de manière offensive alors qu'ils n'en avaient pas forcément grand besoin, et que derrière, ça fait 2 ans qu'ils ont des plots et qu'ils veulent pas les changer.
Ils ont pris des mauvais, ils ont fait des mauvais choix.
Quand ils prennent des bons joueurs, ils les font pas jouer.
Non, ils ont fait des mauvais choix aussi derrière. Dans
quand tu prends Ruben Aguilar, et que tu le fais pas jouer,
il était ses raisons. Il le voit l'entraînement tous les jours, Ludo.
Et puis quand t'as Slimani et Ben Yedder qui te sauvent la mise les deux devant, et que tu décides de mettre Slimani sur le côté gauche. Non mais.
Vas-y Jordan.
Ouais, non, mais vous avez raison, messieurs. Après, on peut pas critiquer le fait d'avoir recruté 2 excellents joueurs en attaque qui sont Islam Slimani, meilleur passeur de Ligue 1, et Wissam Ben Yedder, meilleur attaquant. Mais vous avez raison, et t'as raison,
non,
Ludo. Le problème, c'est la défense, tout simplement, parce que Leonardo Jardim lui-même tâtonne tactiquement. Un week-end sur deux, il change son schéma tactique. Un week-end, c'est une défense à 4. Le week-end suivant, c'est une défense à 5. Donc tactiquement, c'est assez compliqué. Et vous en avez parlé, ils se sont renforcés offensivement. Défensivement, il y a eu également une recrue qui est Marie Pan, qui a du mal
vraiment. C'est son frère. C'est son frère qui est là.
Je sais pas si.
Non mais tu le vois avec le Chili. Avec le Chili, il est impérial, vraiment. Il est sûr, dur dans les duels, il prend tous les ballons de la tête. Et tu le vois avec Monaco, c'est pas le même joueur, c'est incroyable.
C'est vrai qu'il a de grosses difficultés depuis le début de
saison.
Il est
nul. Et puis, il est vrai, vas-y Jordan. Il est nul.
Non, mais il est vrai également que Leonardo Jardim continue de faire confiance à ses lieutenants que sont Camille Glick et Jamerson. Et c'est vrai que les deux ont un niveau de jeu plus que compliqué pour
Jordan,
les deux depuis le début de la saison.
Tu sais s'il a soutien de ses joueurs ou pas, Jardim, a priori? Ou c'est en train de s'effriter un peu dans le vestiaire?
Ça commence un petit peu à s'effriter, même si Timoé Bakayoko, le milieu de terrain international, a pris la parole cette semaine en conférence de presse. Lui a assuré que l'ensemble du groupe apportait son soutien à Leonardo Jardim, mais il se dit que certains membres de l'effectif ont du mal avec les choix de Leonardo Jardim, avec certains tâtonnements, notamment défensifs. Donc officiellement, il a toujours le soutien de son vestiaire. Officieusement, c'est un peu plus compliqué, oui.
Non, moi, c'est voilà. Je crois que c'est la semaine dernière. Voilà, quand j'ai vu ça a définitivement clôturé le débat pour moi. Quand j'ai vu Jamerson arrière droit et Slimani côté gauche. Bon, là, j'ai dit, il est plus inspiré. Leonardo Jardim a été un grand entraîneur. Peut-être qu'il l'est toujours, mais en tout cas plus dans le
plus contexte dans le contact,
de l'AS Monaco.
Comment tu l'expliques?
Moi, je ne remets, je ne revois. Normal, mais tu sais pas, de
il a un matériel incroyable,
il a eu plus d'idées, tu sais pas, il y a besoin des fois aussi de renouvellement.
Il a fait combien de saisons?
C'est un très bon entraîneur.
Il a fait combien de saisons à Monaco?
Mais là, il est dépassé.
5 saisons avec celle-ci.
La 5e saison, il a été champion, il a dû à chaque année reconstruire une équipe parce que on lui vidait dans la vidée de ses meilleurs éléments. Je pense que c'était harassant. Je pense que c'est un homme qui est un entraîneur, qui est un excellent entraîneur, mais qui à l'heure actuelle est totalement éreinté, c'est tout. Il est éreinté.
Il y a une chose qui est sûre, messieurs, c'est que lui, a priori, ne démissionnera pas. C'est pas dans ses habitudes.
Bah et non, puis,
on en a parlé un petit peu au début. Il a pas intérêt aussi à démissionner.
Il prend combien
là, ce qui est intéressant.
Il avait pris 8 millions pour son premier limogeage en décembre.
On parle de sommes sensiblement similaires. 8 millions. On est dans ces eaux-là également.
16 millions en un an.
J'avais vu Braquage à l'italienne. J'avais beaucoup aimé, mais Braquage à
il va pouvoir s'acheter. Alors, en quête de terrain, il va pouvoir s'acheter des montres et tout. Bah, je sais qu'il aime bien. Je l'avais croisé 2-3 fois à Monaco. Avec des mecs en train d'acheter des montres en terrasse sur des vendeurs.
Il a le droit.
Il va pouvoir s'acheter des belles montres là.
Vas-y, Jordan.
Ah, moi, je traîne pas dans ces quartiers-là, donc je peux pas vous confirmer, effectivement.
C'était juste devant la gale, le centre commercial, un petit troquet où le café doit être le moins cher de Monaco.
S'il fait ça, je trouve ça abusé.
S'il fait quoi?
S'il reprend
des montres?
S'il reprend 8 patates, je trouve ça vraiment.
Ah, c'est un descendant. Non, rien,
lui.
Je le ferai, hein.
Non.
Place-moi, je le ferai.
Ludo, il est pour rien, les gars.
Je t'ai fait virer.
Lui, il dit, je suis revenu pour rendre service à mon ami Ribolov Lev. C'est ce qu'il dit, Jordan, en fait.
Oui, parce que c'est là aussi, ça serait un terrible aveu d'échec. Messieurs, pour Dimitri Ribolovlev, parce que c'est le sort de Leonardo Jardim concrètement est entre les mains du big boss de l'AS Monaco. C'était lui qui est parti le rechercher après le licenciement de Thierry Henry pour le mettre en poste de nouveau à l'AS Monaco. Et s'il s'en séparait moins d'un an après l'avoir remis de nouveau sur le banc de l'ASM, ça serait un sacré aveu d'échec pour le président de l'AS Monaco.
C'est louable, les principes de Ludo, il a raison, quoi.
Ouais, j'ai échoué, je te dis, je m'assois là-dessus, moi je veux rien. Peut-être pas surtout. Mais au moins tu...
Qui a fait ça d'ailleurs récemment?
Tu fais une négociation. Attends, tu leur as déjà mis un coup de fusil la première fois. Tu vas leur remettre un coup de fusil.
À moi perso, je le ferais.
C'est exagéré.
À moins que ce soit... Si j'étais dans sa situation, si c'était moi dans sa situation, à Monaco, si c'était pas en plein l'OM, je le ferais pas. Mais à Monaco, j'ai le chèque devant la gueule, je le prends.
Après, et je pense que fait ce qu'il veut, moi je le ferais pas.
Ouais,
demande à voir
avec le chèque devant toi.
Bah c'est sûr, pas, vous parliez tout à l'heure, messieurs, des retraites des footballeurs. Leonardo Jardim n'aura pas de problème à ce niveau-là.
Oui, non, t'as raison. Sa retraite, elle est réglée. Ludo, vas-y.
Non, je trouve. La première fois, tu te fais virer. Je trouve ça tout à fait normal que tu récupères tes indemnités. Là, on revient de. Il revient de nulle part. D'ailleurs, qui a été le rechercher? Ils sont fous, ces gens.
C'est Ribolovlev.
Mais ils sont fous, ces gens.
Parce que Ribolovlev, directement.
Ils sont fous. Rappelle-toi, c'est qu'ils n'avaient pas d'idée. Mais c'est ce que t'as dit. C'est qu'ils étaient dans l'urgence avec Thierry Henry.
Ils ont tenté un coup avec Thierry Henry. Ils ont été un peu trop
mal. Foireux, ça.
Mais on va revenir sur une valeur.
S'ils ont de l'argent acheté par les fenêtres. Allez-y.
C'est Monaco, hein.
Allez-y.
Les gars.
Ils ont 3 équipes.
Ils sont des jardins à Monaco. C'est la preuve qu'il ne faut jamais revenir avec son ex. Ça ne marche jamais.
Rarement.
Mmh. Ah, t'as déjà réussi?
On peut changer de sujet.
J'ai la même depuis le début, moi.
Dans un instant, on accueillera Abdel et Cédric. Beaucoup d'appels de supporters monégasques au 32-16. Jordan, reste avec nous pour quelques précisions.
C'est l'heure d'aller.
On parlera du match demain également face à Lille. Encore une fois, Lille qui va beaucoup mieux, nettement mieux depuis que Lille est éliminée de la Ligue des Champions, surtout. Ce serait terrible pour les monégasques d'enchaîner sur une deuxième défaite contre le LOSC en l'espace de 3-4 jours. Je sais pas comment tu te relèves en général. Quand tu raffrontes la même équipe, je sais pas. C'est bien ou pas bien?
C'est à Lille.
Ouais. Ah, mais bon.
À Lille, ils sont intraitables à domicile.
À Lille, ils sont redoutables.
On en parle dans un instant. Allez, l'after revient avec Ludovic Obraniak, Jonathan McCarty. On poursuit sur Jardim avec nos auditeurs au 32-16. Beaucoup d'appels sur l'AS Monaco. Faut-il continuer ou dire stop? Stop! Léo Jardim.
Arrête.
On est dans un instant.
RMC. L'afterfoot.
Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com/smart/UK to learn more.